Bah oui, elle prend mieux, il y a que ça. Le second, ça existe pas.
Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu.
Go ahead.
Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent.
Make my day.
Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous?
Le second, c'est un con.
Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer, du meilleur au pire afin d'obtenir LA liste ultime. Ceci est notre épisode 89 et de l'autre côté de la France, j'ai envie de dire, de l'autre côté des montagnes, il y a mon ami El Director. Pourquoi je t'ai fait en espagnol ce coup-ci?
Pourquoi t'as mélangé l'espagnol et, et l'allemand? Je ne sais pas.
Je ne sais pas, c'était un mix improbable. Comment vas-tu, Stéphane?
Eh ben écoute, ça va bien, puisque j'ai fait ma rentrée. Donc ça s'est bien passé, donc je suis content.
Ça s'est bien passé. Est-ce qu'il y a beaucoup d'enjeux chaque année? Est-ce que c'est parce que j'ai vu le film de Grand Corps Malade sur la rentrée à Saint-Denis? Est-ce que c'est comme ça?
Écoute, je n'ai pas vu le film de Grand Corps Malade, c'est quoi? Comment il s'appelle?
Un truc scolaire.
La
vie scolaire.
La vie scolaire. Non, j'ai pas vu La vie scolaire, donc je peux pas te dire si c'est comme ça. Et puis en plus, La vie scolaire, ça se passe dans un collège, tu vois, c'est pas tout à fait pareil.
C'est vrai. Est-ce que t'as pas un CPE, toi?
Ah non, j'ai pas de CPE, bah non, t'es fou. d'ailleurs, ça m'a fait rire parce que j'ai envoyé des mails à des collègues directeurs parce que j'avais des questions à leur poser. Et là, certains, dans leur mail, quand ils te répondent, il y a marqué le secrétariat, alors qu'en fait, on n'a plus de secrétaire dans les écoles, quoi.
Ah d'accord, c'est genre...
Ils se raccrochent à un passé glorieux.
Ah, j'espère qu'ils écoutent ce podcast. Alors, en quoi ça consiste Super Ciné Battle? Vous nous envoyez des listes de films, trois films par liste, pour que ensuite on les classe dans le classement ultime du cinéma, ce qu'on appelle affectueusement le marbre,
c'est
mais
ça.
Aussi avec un certain respect, avec une certaine déférence en fait.
Oui, mais presque une certaine, j'ai envie de dire, une certaine méfiance aussi, tu vois, il y a un côté entité supérieure qu'on ne veut pas fâcher, c'est un peu le mouton sacré.
C'est un peu le mouton sacré, c'est quelque chose qu'on le traite avec beaucoup de respect.
Exactement.
Et en même temps de frayeur, parce qu'il peut nous imposer des choses.
C'est ça, voilà, on n'est jamais à l'abri qu'à un moment donné, on ait mal compris le marbre et que le marbre, voilà, se venge.
Ah, le marbre est vengeur, voilà, c'est ça. Le marbre
exactement.
Et il peut être belliqueux. Je sais pas si quelqu'un qui prend cet épisode pour la première fois s'est dit « qu'est-ce que c'est que ces oiseaux ?»
Où est-ce que je suis tombé?
Pour nous envoyer des listes, c'est facile, c'est supercinébattle@gmail.com, 3 films par liste, et puis mettez un titre parce que c'est pas mal pour donner une thématique, parce qu'on aime bien les thématiques. Et en ce moment, on couvre les années 90, on va rester, je ne sais pas encore combien de temps, peut-être deux épisodes, on verra, en fonction de notre humeur. Et après, on va enchaîner sur les années 2000. On va juste rappeler le top 10 peut-être.
Bah oui, évidemment, le top 10, parce que figure-toi, j'ai la liste sous les yeux, cette fois-ci, grand professionnalisme.
J'aime bien ça, j'aime bien.
Tu aimes bien, voilà. On a en première position Hanabi de Takeshi Kitano, qui trust la première position depuis le 58e épisode.
C'est pas n'importe quoi, mais Blade, The Blade plutôt.
Oui, The Blade, alors parce que attention, ça n'a rien à voir avec Wesley Snipes. Hein.
Et toujours là, depuis le 13e épisode, celui de Pulp Fiction... 9e épisode quand même.
Avec Fargo, 8e épisode qui est donc à la 4e place.
Suivi de Impitoyable, oui. Perfect Blue qui est peut-être notre entrée la plus récente dans le top 10.
Ouais, exactement, ouais. Tout à fait.
The Mission, L'Armée des 12 Singes et 9e Matrix, un film dont on a réentendu parler récemment, figure-toi.
Oui, c'était drôle parce qu'au moment où on a enregistré l'épisode, on a parlé de Matrix, puis on parlait de. Un peu de ce qui pouvait aller par la suite, et puis du coup, pouf, ils ont annoncé un 4e épisode de Matrix depuis.
Avec Keanu Reeves qui revient, et Carrie Ann Moss.
Et Carrie Ann Moss, exactement, et une des deux sœurs Wachowski, je sais plus laquelle,
je crois que c'est Lana.
Il me semble que c'est Lana Wachowski qui revient à la mise en scène.
Et il y a beaucoup de gens qui reviennent du premier film, en fait, j'ai vu que Steven Scross qui faisait le storyboard, tu vois, c'est toujours le même. Enfin, ils utilisent un peu le même type. Ils sont très ambiance familiale, donc...
Ils essayent, je pense que c'est... Je pense que ils ont envie un peu de se dire, bon, on va retrouver la magie du premier épisode, parce que c'est pas un secret de dire que les autres sont plus polémiques, on va dire.
Je me demande si les Wachowski, justement, ou je devrais dire juste Lana, hein, puisque c'est Lana qui a l'air impliquée, si Lana a envie peut-être de rebooter, en fait.
Matrix, le principe de rebooter, finalement, ce serait dans la logique même de la licence.
Alors, on va descendre un coup, et j'ai l'impression que on a eu deux entrées dans le worst, quand même, la dernière fois.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Puisque c'est vrai. Sous Postman, sous Highlander 3, sous Bouge, point d'exclamation, sous Power Rangers, ce film, et sous Wild Wild West, Wild Wild West, qui, rappelons-le, était notre barème.
Oui, c'est vrai.
Notre barème de la nudité, se sont insérés La Soif de l'Or, Folle d'Elle, Les Couloirs du Temps, Les Visiteurs 2, Homme-Femme, Mode d'Emploi, et surtout, le nouvel arrivé, Flubber.
Flubber, bah ouais.
Vraiment nul à chier. Suivi de, désolé pour tous les gens impliqués dans Flubber, suivi de Le Cobaye 2.
Oui, Le Cobaye 2.
Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment nul.
C'est vraiment, c'est presque criminel à ce stade.
Et en parlant de criminel, La Ligne Verte et Quasimodo del Paris. Chacun son Némésis.
Ah oui, ça c'est sûr qu'on en reviendra pas dessus là.
Et avant de commencer, je voudrais juste dire un truc, c'est qu'à l'heure où on enregistre, tu es l'heureux papa d'un nouveau livre.
Mais oui, alors...
T'as vu, pour une fois que j'y pense avant, mais oh là oui, là, je suis trop heureux.
C'est vrai, et j'ai d'ailleurs reçu ce matin mon colis en tant qu'auteur avec tous mes bouquins que je m'en vais distribuer à des personnes qui me sont chères. Je sais pas si t'en fais partie, Daniel, ça par contre, c'est pas garanti. Mais oui, effectivement, l'œuvre de John Carpenter, Les Masques du Maître de l'Horreur, est sorti, ça y est. Et, il est disponible chez l'éditeur, chez Third, et puis il va arriver en librairie là, courant du mois de septembre.
Ah, bah c'est plutôt une bonne nouvelle et j'ai hâte de la voir.
Eh bah écoute, j'espère que tu apprécieras cet
ouvrage.
J'espère
l'avoir dans la version où il s'appelle Carpentier plutôt que Carpenter.
Oui, Jean Charpentier.
Donc félicitations. Merci. C'est toujours un moment très émouvant, j'imagine.
Ouais, ça faisait plaisir de le parcourir, parce que j'avais eu la version numérique pour la relecture et tout genre de choses, mais là ça fait bizarre d'avoir le livre vraiment dans les mains, quoi.
Oui, et en même temps, je connais tes enfants, ils ont dû voir le bouquin, il a fait « Ah, papa, c'est pas des mangas, ça m'intéresse pas. » Et il faut le dire, on est plutôt une bonne ambiance, on a quand même enregistré beaucoup de contenu ensemble. On a enregistré l'épisode d'After Eight entièrement consacré à Once Upon a Time in Hollywood, donc l'épisode précédent, et puis on a enregistré un petit bonus en cours de route que je devrais mettre au courant du week-end pour les donateurs qui donnent au patreon.com/RPU. Et merci encore de votre soutien, c'est ça qui permet souvent, par exemple, que tu viennes à Paris pour assister à... Tiens, voilà, hop, encore un placement.
Encore de l'actu.
Assister à la Nuit Nanarland, mon gars.
C'est ça, exactement, nous serons à la Nuit Nanarland tous les deux cette année, c'est une nouveauté aussi, parce que...
Ah, je suis très 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 content.
C'est la première fois qu'on l'a fait tous les deux ensemble, en fait. On l'a fait chacun de notre côté, et là, c'est la première fois qu'on l'a fait tous deux ensemble, et j'ai un peu hâte d'être là.
La playlist est fabuleuse.
Ah bah oui, ça annonce du lourd, ça annonce du lourd.
Alors, je serai en plein jet lag, je garantis pas que mon...
L'attention sera maintenue.
Tous les atomes de mon corps sont maintenus pendant toute la nuit, mais on sait jamais. On ira faire la sieste ensemble après. C'est une proposition très crapuleuse.
Oui,
Mais en même temps, toi et moi, on a vécu tellement de choses ensemble.
Oui, qu'on n'en est plus là, voilà.
On a été à un mariage ensemble le week-end dernier.
C'est ça, exactement.
On est maintenant des vieux blagues. Les gens vont croire qu'on se déteste, mais en fait, pas du tout. Ou pas, je sais pas, on va laisser planer le doute. Allez, c'est le moment de se lancer maintenant dans Super Ciné Battle. Et on va prendre une liste, et alors là, je prends mon téléphone portable parce que j'ai choisi mes listes tout à l'heure en étant chez le boulanger, figure-toi.
Ah.
En ramenant des pains au chocolat à madame.
La liste du boulanger.
C'est une liste qui nous est envoyée par... qui vient d'arriver, en fait, presque. Et elle nous est envoyée par Mathieu Akae, @SmegMathieu sur Twitter.
Ben, merci Mathieu, en fait, voilà.
Et c'est une liste qui s'appelle « Yeah Yeah Rockstar ». Dave Grohl n'a qu'un podcast, eux, ils ont des films. Et c'est une liste sur les stars du rock pendant que Dave Grohl, il cartonne sur sa guitare. Non, il est batteur.
À cette époque-là, enfin, ça dépend. Au début des années 90, il n'est que batteur.
Oh non, tais-toi avec le grand casse, ça suffit.
Mais à la fin des années 90, il est déjà chanteur-guitariste, puisque les Foo Fighters, ça date de 95.
Donc là, on va avoir un peu une filmo un peu plus vieille canaille, si tu me permets.
Ah, voilà. Je vois ce que tu veux dire.
Et alors, le premier film de cette liste, et ça va être évidemment français, puisque j'avais envie de commencer par des films français. Et le premier film de cette liste s'appelle Le bonheur est dans le pré d'Étienne Chatillez.
Et donc, du coup, la vieille canaille concernée, c'est Eddie Mitchell.
Oui, Claude Moine. J'adore dire son vrai nom.
Ça surprend quand même, toujours.
Oui, oui, mais en même temps, c'est son nom. C'est genre, il a, ça sera ça pour toute la vie, quoi.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est ainsi qu'il est venu parmi nous.
Et alors, j'aimerais annoncer juste un truc, c'est que ce n'est pas le pire film d'Étienne Chatillez, quoi qu'il arrive, parce que j'en ai vu un cette année, et je te rappelle que dans moins de 150 jours, on pourra le classer.
T'as remarqué l'absence de réaction totale.
Inerte. Son corps restait inerte.
Oui, donc le bonheur est dans le pré, donc c'est un film d'Étienne Chatillez. Pour moi, c'est encore un film de la bonne période d'Étienne Chatillez.
Disons que c'est le dernier, là.
Je pense que ça doit être dans les derniers, effectivement, parce que...
Non, 95.
95, parce que Tati Daniel, tout ça, c'était avant. Et effectivement, c'est peut-être effectivement le dernier film où Étienne Chatillez avait un peu sa tête, on va dire.
Et c'est un film composite de plein de comédiens que vous connaissez. Genre, c'est vraiment le all-star de la comédie française de l'époque, puisque en plus de Eddie Mitchell, il y a Michel Serrault.
Il y a Michel Serrault, évidemment.
Il y a Azéma, il y a François Morel. Enfin, il y a Isabelle Nanty aussi.
Oui, bah de toute façon, bah déjà chez Chatillez à l'époque, t'avais forcément Isabelle Nanty à un moment donné quelque part.
Il y a Yolande Moreau, et là on est vraiment dans la période post-Deschiens en fait. C'est-à-dire
oui.
que.
Oui, c'est vrai. Ouais.
C'est-à-dire l'influence de. Alors les Deschiens, les plus jeunes ne connaissent pas, mais c'est vrai que les plus jeunes ne connaissent peut-être pas les Deschiens. C'était une troupe de comédie de Jérôme Deschamps et Macha Makeyev. Et ils faisaient des troupes de théâtre, et ensuite ils ont fait un programme télé qui s'incrustait dans Nulle part ailleurs, qui était le programme en clair de Canal+. J'ai l'impression de parler d'une autre époque,
oui, alors complètement, que ouais.
Techniquement c'est une autre époque. Et donc il y avait Yolande Moreau, il y avait Bruno Lochet, il y avait François Morel, et ils jouaient pour expliquer les Deschiens.
Bah, en fait, ouais,
sans être insultant, parce que je veux juste annoncer la couleur, je déteste les Deschiens.
Bah, les Deschiens, c'était un peu l'extension, bah, puisqu'on est chez Chatillez, c'est un peu l'extension de la famille Groseille dans La vie est un long fleuve tranquille, quelque part, puisque c'était des espèces de surprolos, on va dire. Qui vivaient dans des poubelles littéralement, quoi.
Voilà, tu t'as bien résumé. C'est vraiment des prolos, mais faites de manière ultra, j'allais pas dire prétentieuse, mais avec une espèce de volonté théâtrale. Et moi, j'ai détesté les Deschiens. Je trouvais ça ultra condescendant, en fait. Et je comprends qu'il y a des gens qui aiment bien, parce qu'en plus, moi j'aimais bien, il y a un ou deux. Le personnage de François Morel était assez rigolo. Enfin, j'arrive pas à faire son accent. 3615 code clo-clo. Et il arrive jamais à le dire. Enfin, et voilà, il y a des trucs. Il y a des trucs rigolos conjoncturellement, mais en fait, le programme m'insupporte, en fait.
Bah, moi, j'étais pas trop fan des Deschiens non plus, en fait, parce que c'est un humour qui était très très particulier. Et bah, y avait plein d'épisodes où finalement je restais de marbre, donc ce qui fait qu'au bout d'un moment j'ai fini par ne plus regarder du tout, en fait. Donc j'étais pas non plus ultra fan, quoi.
Bah, parlons un petit peu du Bonheur est dans le pré. Donc c'est l'histoire d'un chef d'entreprise qui est joué donc par Michel Serrault, et
c'est ça.
Il est dans la merde financière, je crois, ou...
Bah, il est dans la merde partout, parce qu'en fait il a une usine de sièges de toilette, ouais. Et en gros ça se passe mal avec ses employés, ça se passe mal avec le fisc. Ça se passe mal avec sa femme, ça se passe mal avec sa fille, enfin genre, ça, tout va mal, tout va mal, et puis du coup, en fait, il finit par faire un malaise, en fait, un espèce de malaise dû au stress.
Ouais, un AVC, quoi.
Un AVC, puis voilà, bah, il finit à l'hôpital. Donc ça, c'est pour planter le décor un peu.
Ou un malaise vagal, comme on dit.
Ou un malaise vagal, ouais.
Chez Nicolas Sarkozy.
Oui, exactement. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, pendant qu'il est à l'hôpital, il tombe sur une émission de télé, je crois, c'est ça. Alors, je sais plus, d'un autre coin rural de France, parce que lui aussi, c'est pareil, je crois qu'il est dans le Jura ou quelque chose comme ça. d'un autre coin de France avec des, j'allais dire perdu de recherche, mais non, perdu de vue. Perdu de recherche, c'était la parodie en fait.
On a beaucoup de références des années 90. Perdu de vue, c'était une émission de Jacques Pradel et qui essayait de relier des gens qui se sont pas vus depuis des longtemps. Genre, ah, j'ai pas vu mon oncle Henri.
Des disparitions, des choses comme ça.
Et ils retrouvaient le truc et ça se passait en direct à la télé. Et c'était un petit peu racoleur puisqu'il y avait des zooms sur les larmes.
Non, c'était pas racoleur du tout. Alors là, je peux pas te laisser dire ça.
C'était le début de la télé-réalité en France.
Oui, et il y avait notamment des séquences de gros malaise. C'est ce qu'on fait d'ailleurs les inconnus avec Perdu de recherche. C'est-à-dire que parfois, tu y retrouvais des gens, t'avais vraiment la sensation que ces gens avaient pas envie d'être retrouvés en fait.
Genre, ah merde
Ah oui
T'avais gagné au loto? Non, trois fois rien.
C'est ça, voilà. Donc, mais oui, et donc du coup, ils tombent sur une émission de ce genre-là. Et en fait, il y a des gens qui cherchent un. Quelqu'un, je ne sais plus si c'est le mari ou peu importe, voilà, qui a disparu depuis 26 ans. Et il se trouve que la personne disparue, ben, c'est son sosie parfait. Et du coup, lui, ben, il vient commence à s'accumuler les problèmes, parce qu'évidemment, sa femme voit l'émission, etc. Est-ce que ce type qui a disparu il y a 26 ans, c'était lui ou pas, voilà. Et ça, c'est le point de départ de ce film rocambolesque.
Et c'est presque un film choral dans la campagne, en fait. Dans la campagne, c'est pas vraiment la campagne, c'est plutôt la petite ville de province.
C'est ça, ouais, c'est un milieu rural.
Gens parlent du pré dans le titre, mais en fait, c'est beaucoup plus, c'est vraiment une petite ville de province. Et les personnages qu'il dépeint, c'est ce que Châtillaise appellerait la petite bourgeoisie de province, qui finalement, je me demande si c'est pas un truc que dont lui, c'est... C'est enfui, mais en fait en fait ça le fascine en fait. C'est sa propre c'est dans ce milieu qu'il a été éduqué, Châtillaise.
Oui, bah tu sens effectivement. Bah, de toute façon c'est un thème qui est assez récurrent parce que même si effectivement la vie d'un fleuve tranquille se déroule en région parisienne, on est en banlieue petite moyenne couronne avec voilà des bourgeoisies et des prolos de qui sont quand même très identifiés dans leur quartier en fait finalement donc toute cette logique effectivement d'organisation sociale au sein d'une ville c'est un truc qui est très récurrent dans son cinéma en tout cas à cette époque-là.
Est-ce que t'aimes ce film?
Bah écoute, moi j'aime bien le Bonheur est dans le pré.
Je trouve qu'il aurait pu être beaucoup plus condescendant en fait, comme le Châtillaise, je vais dire 2010 quoi. Et il passe à côté en fait de ce qui aurait pu être horrible en fait. Et je trouve que c'est beaucoup en partie grâce à Sabine Azéma et Michel Serrault qui arrivent à trouver une espèce d'équilibre. Et puis surtout parce qu'il donne la place à tous les François Morel et Yolande Moreau. C'est des c'est entre guillemets les prolétaires. C'est les gens qui bossent à l'usine en fait.
Oui. Ouais.
Et du coup, il leur donne beaucoup de temps de présence à la caméra. Et je trouve que ça équilibre assez bien le film en fait.
Non mais c'est vrai qu'en fait le Bonheur dans le pré fonctionne parce que tu sens que déjà il y a une vraie affection pour le... Même si t'as toujours le côté extrêmement grinçant de Châtillaise, mais t'as une vraie affection pour les personnages, c'est-à-dire qu'effectivement ils sont tous un peu allumés à leur niveau, mais tu vois que ça reste des gens attachants au fond un peu tous à leur niveau, même tu vois le personnage d'Eddie Mitchell aussi, tu sens qu'il y a un vrai intérêt pour les personnages et que même si ils s'amusent à montrer leur travers, ils perdent pas de vue qu'au final on a besoin de s'attacher à eux et il les rend attachants, quoi. Chose qu'il l'oubliera de faire par la suite dans ses films.
Ou alors enfin, pour moi, le problème de Châtillaise aujourd'hui, c'est que c'est un caricaturiste, mais en général, les caricaturistes vieillissent mal. C'est peut-être une opinion personnelle, mais quand tu vois une caricature faite dans les années 70 ou 80, genre même des dessins de presse, hein, j'entends, et que tu la revois aujourd'hui, tu fais « Ah, oh, j'aurais pas fait ça, quoi ». Il y a un truc de la caricature qui vieillit très très mal, et lui, ce qu'il fait, c'est la caricature de la société à ce moment-là précis. Et celui-là passe mieux que Agathe Cléry, quoi. Parce que Agathe Cléry, c'est ni fait ni à faire, et on a parlé de Tanguy, et puis... je te parle même pas de Tanguy 2.
Non, ne me parle pas de Tanguy 2. Ouais.
C'est le premier film de Canto.
Ah oui, c'est vrai.
Chance aux jeunes talents.
Voilà, effectivement, Cantona qui joue dedans, c'est tout à fait vrai. Ouais.
Alors, où est-ce qu'on va le classer?
Alors, où est-ce qu'on va classer Le Bonheur est dans le Pré?
Je vais juste vérifier où est-ce qu'on a classé les précédents Châtillaises. On a...
Bah, Tati Daniel, on l'avait fait. C'est moins bon que Tati Daniel, ça c'est sûr.
Ah non, c'est clair. Claire, ça va sous... Donc, on est sous la place 73. On en avait un autre, je crois. On avait...
Ça va sous Chute Libre.
Ouais, je te suis.
Ça va sous L627.
Ouais.
Ça va sous Didier.
Ça va sous Didier pour moi aussi.
Je vois...
Je vais chercher une comédie. Est-ce que ça irait sous Les Visiteurs?
Ah non, pour moi, ça va au-dessus des Visiteurs, quand même. Moi, j'ai du mal à le mettre sous Fortress, tu vois.
Tu le mettrais sous Indien dans la ville.
On l'a mis où, l'Indien
dans la ville? Ah, c'est vrai que Fortress a comédie équivalente. Fortress
et... Bah oui, tu vois. Je mettrais juste au-dessus de Fortress.
Ok, avec, d'accord. Ça
avec
va.
Comédie à casting de rêve.
Tu sais quoi, Piège à grande vitesse aussi, grande comédie. Je le mettrais entre Fortress et Piège à grande vitesse. J'ai séparé.
Ah putain, mais en même temps, je préfère quand même Piège à grande vitesse. Ah putain, j'avais pas vu Piège à grande vitesse. Moi, je mettrais du contre Piège à grande vitesse et Men in Black, tu vois.
D'accord, ok.
Voilà.
Allez, sold.
C'est vrai que Piège à grande vitesse, c'est quand même un très très grand film.
Hop.
Rappelons-le.
Il est 118e, ce qui est pas mal. Non, qui est 117e, ce qui est pas mal en fait, vu la liste qui commence à être vraiment touffue.
Oui, oui, il y en a du monde. Hein.
Et qui va bientôt dépasser les 200 films, c'est ouf. Le deuxième film, c'est un film avec Johnny Hallyday. C'est La Gamine de Hervé Palude.
Je ne l'ai pas vu.
C'est vrai ?
Je n'ai pas vu ce film avec Jean-Philippe Smet. Ah si, mais si.
C'était avec Mai Wen.
C'est... Non mais attends, j'ai regardé vite fait quand même l'affiche. Je l'ai vu parce que je connais l'affiche, mais par contre je me rappelle pas du tout du titre en fait. Ça s'appelait La Gamine.
Ouais, ça s'appelait La Gamine, ouais. Et c'était avec oui. Donc Mai Wen que vous connaissez puisque c'est qui va devenir l'épouse de
Luc Besson.
Luc Besson. Et attends, est-ce que ce film est antérieur à son mariage ou pas?
Bah je sais pas, elle avait quel âge?
Bah le film est de 92. Et
parce que si elle est majeure, c'est après leur mariage. Hein.
T'es con. Non, j'ai bien compris. J'ai bien compris la vanne. C'est bon, j'ai compris. Bon, peu importe. Je pense que Mai Wen était déjà une star à ce moment-là précis, puisque elle était dans. Je crois qu'elle était. Elle faisait une série qui s'appelait La Famille Ramdam. C'est comme ça que je l'ai découvert.
Waouh.
Dans les années 90. Alors, vous connaissez peut-être pas La Famille Ramdam.
Ah non, moi je connais pas. Non, ça c'est.
C'était une série M6 et c'était intéressant parce que.
Ah mais j'ai pas M6. Voilà pourquoi.
Voilà. Vraiment, c'était vraiment le tout début des années 90. C'était une série. J'allais pas dire ambitieuse parce que c'est quand même une sitcom. Ce qui était intéressant pour La Famille Ramdam, c'est que tous les personnages étaient d'origine arabe.
D'accord. Ah oui, donc oui, effectivement, dans le paysage français des années 90, c'était un peu...
Ça détonnait complètement.
Ah oui, effectivement, oui.
Alors, il n'y a pas eu énormément d'épisodes, il n'y a pas eu une... Il y a eu, je sais pas s'il y a eu une ou deux saisons, mais Mai Wen jouait la fille de la famille. Alors, évidemment, il y avait les voisins qui étaient un petit peu les connards et tout, mais... C'était un truc assez étonnant, quoi, de voir ça dans les années 90. Je trouvais ça... même à l'époque, tu vois, je devais avoir 13 ans. Je parle vraiment de mes souvenirs. Mais c'était étonnant de voir ça, qu'à l'époque, M6 avait fait ça. Alors qu'aujourd'hui, tu regardes les petites séries, là, les mini-séries de famille. Là, j'ai oublié comment ça s'appelle. Là, avec Roland, où il y a Roland McDan dedans et tout ça.
Oui, oui.
Un air de famille, Notre belle famille. Les voisins. Je ne sais pas.
Je n'ai plus la télévision. Enfin,
tous les gens qui ont M6 connaissent cette série. Et ils doivent être en train de dire « Ah, mais c'est ça. » Alors,
Joseph.
Par contre, je connais La Famille Ramdam. Et c'est dans cette série que Mai Wen a commencé. J'avais un mini crush sur elle, je peux t'avouer aujourd'hui.
Luc Besson approuve ce message.
Non, mais moi j'avais 13 ans.
Mais ouais, dans sa tête aussi, il avait 13 ans, Luc.
Oui. Non, mais moi j'avais vraiment 13 ans. et tu voyais aussi que c'était une artiste qu'elle avait envie de comédie, quoi. C'était pas évident de voir ça, mais clairement elle sortait de du lot, enfin c'est celle qui a fait carrière j'imagine dans toute la série, et je suis désolé si des gens de cette série m'écoutent, mais oui c'est clairement elle qui en sortait grande victorieuse. Et donc voilà, c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée à partager l'affiche avec
avec Johnny.
Avec Johnny, la gamine.
Johnny qui aimait bien aussi hein, les jeunes filles, il faut dire ce qui est.
C'est vrai. Il est. Je vais pas épiloguer là-dessus.
Voilà,
mais...
je crois que. Mais. Dit ce qu'il y avait à dire. Mais,
oui, voilà.
Bon, c'est... revenons-en au film. Non, mais alors, du coup, oui, moi j'ai complètement oublié que ça s'appelait La Gamine. C'est déjà pas très bon signe quand t'as vu le film, mais que tu te rappelles plus du tout du titre. Puisqu'effectivement, oui, c'est un film où Johnny Hallyday incarne un ex-flic. Alors, est-ce qu'il avait déjà fait sa série, là, Johnny Hallyday, où il était flic à cette époque-là, je sais plus.
Ah non, je pense que c'était bien avant.
C'était Lansky, c'est ça? Non, je sais
Lansky.
Plus.
Non, Lansky, il était déjà plus vieux, j'ai l'impression.
Bah, pour moi, Johnny Hallyday.
Donc... Ah non, t'as raison, je viens juste de checker. Lansky, c'est 89.
Ah bah, tu vois, voilà, donc c'est pendant la période Lansky.
Qui était la série qui était réalisée par Hervé Palud. Hervé Palud, donc le réalisateur de
voilà. Voilà. Donc comme quoi, voilà, tu vois, les inférences que je fais ne sont pas anodines.
Hervé
donc...
Palud, que vous connaissez puisqu'on en a parlé, c'est le réalisateur de Un Indien dans la ville et aussi du très grand classique Mookie avec Eric Cantona.
C'est vrai.
C'est toujours méchant, mais non, mais c'est vrai. C'est un mec qui a quand même un sacré palmarès, quoi.
Et donc du coup voilà, il joue à un ancien flic que reconverti en il est pilote, c'est ça je crois, un truc comme ça.
Il y a à cause des scènes d'hélicoptère.
Ouais, c'est ça, il me semble hein, il bosse
j'ai aucun souvenir de son truc, je sais juste que elle débarque alors qu'elle est
elle est recherchée par la police,
elle est
voilà.
Pourchassée par la police.
Voilà. Et en gros, voilà, du coup, il a quitté la police parce que il avait des méthodes un peu viriles. Et puis, du coup, il est pilote dans un espèce d'aéroclub à la con. Et sa fille, donc jouée par Maïwenn, débarque et évidemment, elle est recherchée par la police parce que elle est soupçonnée, je crois, de meurtre en plus. Et évidemment, ça va s'entraîner dans une espèce de comédie policière, voilà. Et puis, la relation père-fille, comment apprendre à se connecter. L'un à l'autre, quoi. Un schéma assez classique, on va dire, dans la comédie française, quoi.
Tellement classique, j'ai l'impression que c'est un film d'Alain Delon sur deux, en fait.
c'est vrai.
Soit Ne réveillez pas un flic qui dort. C'était la parodie des Inconnus qui m'a marqué, qui faisait Ne réveillez pas les couilles d'un flic qui dort. Ah là là.
Et La Gamine, autant dire que c'est pas forcément le pinacle de la carrière de Johnny Hallyday en tant qu'acteur, quoi.
Ouais, mais je pense que pour Maïwenn, c'est pas mal.
Oh, t'es méchant.
Non, mais en tant que comédien, ah, c'est vrai qu'elle a fait quand même une grosse carrière après, puisque elle a eu des
Oscars, non, des Césars.
Elle a été, non, mais elle a reçu le prix du jury à Cannes, à Cannes, oui.
Ah, peut-être, oui, peut-être.
Ah non, pour Police écrit avec deux S.
Ah oui, c'est à Cannes, ouais.
Qu'on pourra classer, je te rappelle, dans une centaine de jours.
C'est vrai.
Bon, oui, c'est pas un film mémorable.
Non, c'est très très nul, c'est tellement pas mémorable, je me souvenais plus du titre. C'est compliqué.
C'est même pas compliqué, c'est très simple. C'est très très simple, c'est pas très intéressant. Et si t'es allé le voir au cinéma...
Non, j'ai pas vu au cinéma quand même.
Ouais, non, mais si t'es allé voir au cinéma, tu t'es fait avoir par la couverture médiatique de ce film, parce que ces films-là jouissaient d'une promotion continue. Enfin, vraiment, genre, ils allaient à la télé, ils passaient aux 20h. À l'époque, ils devaient avoir que 4 chaînes. Et tous les gens disaient « Ah, du bien, ah, c'est vraiment, vous faites un bon film et tout. » Genre, les interviews un peu à la Michel.
À la Drucker.
À la Drucker, quoi, ouais. Du coup, t'étais obligé d'avoir la promotion, c'est pour ça que ces films marchouillaient un petit peu. Hein,
effectivement, la force de frappe, c'était aussi ça, le fait d'engager Johnny, au-delà du fait qu'avec Hervé Palud, il s'entendait bien, c'est qu'effectivement, Johnny Hallyday, qui fait un film, c'était un événement en soi, quoi qu'il arrive, donc forcément, tout le monde voulait l'avoir, tout le monde voulait entendre parler, même si Johnny, en interview, surtout, à partir de ces années-là, c'était vraiment bizarre, quoi.
C'était vraiment bizarre. Donc, où est-ce qu'on le met, alors?
Écoute, où est-ce qu'on le met donc...
Parce qu'on va le classer tout de suite, on va pas dire des trucs genre... Non, il y avait des super comédiens, on s'en fout.
Non, ça va en dessous du Bonheur est dans le Pré.
Ça, c'est sûr.
Ça
va au-dessous de Air Bud.
Oui, ça va au-dessous... C'est où Air Bud? Où est-ce qu'on l'a mis?
Air Bud, il est assez haut chez nous. Hein.
Ah bah, ça je sais bien.
Il est 127e au-dessus du cinquième élément.
Non, moi.
Je crois que c'est mes passages préférés de ce podcast, c'est quand on rigole grassement d'un mauvais classement pour quelqu'un d'attendu.
Par rapport aux Spoons.
Ah, le remake ?
Oui, bah oui, le remake.
Qu'on a classé. Je pense que c'est mieux que le Spoons quand même.
Mais c'est pas beaucoup mieux quand même, quoi. Pour moi, Risque Maximum, c'est mieux. Tu vois, c'est quelque part entre le Spoon et Risque Maximum.
Je pense que. Alors, on sépare Bad Lieutenant. On met.
De Risque Maximum, ouais. Gamine est officiellement meilleure que Bad Lieutenant.
Je savais comment te faire plaisir. Samedi matin, puisqu'on enregistre le matin.
Et ça, messieurs, dames, vous ne pouvez rien y faire. C'est la vérité absolue.
C'est la vérité. La gamine. Et je suis sûr qu'il y a un gars qui va nous dire eh, j'ai revu la gamine, vous rigolez, ça vaut pas Anaconda ou Double Dragon. Et nous, on dira, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est le marbre. Le marbre nous a guidés à cet endroit.
Exactement.
Et je reprends ma liste.
Puis, puisqu'il nous reste le troisième film de la liste.
Et le troisième film de la liste est Van Gogh de Maurice Pialat avec Jacques Dutronc.
Donc oui, le Van Gogh avec Dutronc. Dutronc qui, des trois vieilles canailles, reste quand même celui qui je trouve le plus intéressant en tant qu'acteur.
Bah alors, tu sais quoi, je sais pas ce qu'aurait donné Dutronc dans le film avec Johnny To.
Oui, mais en même temps, c'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur Dutronc. Dutronc. C'est pas le meilleur Johnny To.
Lapsus intéressant.
Oui, lapsus très intéressant. Non, mais pour moi, Dutronc, c'est le seul qui peut incarner autre chose que Jacques Dutronc, en fait. Parce que tu regardes, même chez Johnny To, Johnny Hallyday incarne Johnny Hallyday. Eddie Mitchell, il a un registre peut-être plus large aussi, mais il faut qu'il soit bien dirigé. Dutronc, je trouve qu'il a une vraie dimension d'acteur, quand même, en lui, quoi.
C'est clairement, il a un truc de incarner quelque, enfin, genre il sait comment fonctionne la comédie.
Oui, voilà, il sait se glisser dans un rôle en fait. Tu vois, j'aurais jamais vu Hallyday dans le rôle de Van Gogh ou je sais pas moi n'importe quel autre peintre ou figure historique. Enfin, tu vois, je pense qu'il a pas la capacité. Et tu regardes même Hallyday jusqu'au bout. Enfin, chez Lelouch, il était exploité parce que c'était Johnny Hallyday. Tu vois, il avait porté pas le nom.
Ah, il était littéralement dans le dernier film où il a joué, celui de Lelouch. Il était Johnny Hallyday.
Oui, voilà. Donc c'est.
Il était Johnny Hallyday qui se tapait évidemment. C'était qui déjà en plus
Je sais plus.
Elsa Zimmerstein.
Elsa Zimmerstein, voilà.
Enfin, il se la tapait. Il roulait une petite galoche.
Voilà. Donc voilà. Donc c'est. Voilà. Dutronc, lui, il peut faire autre chose et. Dans ce Van Gogh de Pialat, je trouve qu'il s'en sort vraiment bien en fait. Je trouve qu'il il arrive à être juste. Alors, je connais pas suffisamment bien la vie de Van Gogh pour te dire si c'est pertinent par rapport en termes de biographie, mais je trouve qu'il voilà, la présence de Dutronc fonctionne bien à l'écran.
Alors, moi j'aime bien Van Gogh, j'ai lu pas mal de bio sur Van Gogh, c'est un artiste qui m'a beaucoup intéressé, et ce qui m'intéresse dans ce film-là, c'est que il y a eu pas mal d'adaptations de Van Gogh. Moi, je me souviens avoir beaucoup adoré celle qui est l'américaine, celle qui était de... où c'est Kirk Douglas.
Oui.
C'est Kirk Douglas et je crois Anthony Quinn qui jouait Gauguin. Et qui, elle, raconte un peu l'itinéraire de... Genre, il arrive... qui raconte sa vie vraiment, genre, c'est vraiment un biopic classique. Il raconte comment il va dans les champs, les mines, et ensuite, il va dans le sud de la France. Ça raconte un peu tout son cheminement, et surtout son amitié avec Gauguin. Là, on est dans un autre Van Gogh, et surtout, pour moi, il y avait une scène... ils ont mis en image la scène où il se coupe l'oreille, c'est-à-dire où il menace Gauguin une arme.
Ouais.
Et c'est fait ultra dramatique. Et t'imagines, c'est un film des années 50. Genre avec la musique, il fait... Et tout ça, ça m'avait beaucoup impressionné à l'époque, en fait. C'est un film pour lequel j'ai une affection particulière. Et plus, je trouve que Kirk Douglas ne ressemble pas du tout à Van Gogh. Mais Kirk Douglas, c'est incarné un personnage.
Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est le principe... De l'acteur en fait. La ressemblance physique, c'est peut-être la chose la moins importante quand tu choisis un acteur pour une figure historique, parce que effectivement l'important c'est l'incarnation et le fait qu'au bout d'un moment tu oublies qu'il a pas la même tête, quoi.
C'est ça, en fait. Il faut qu'il l'incarne. Et là, on est dans un Van Gogh qui est dans les derniers jours de sa vie, en fait. Après sa tentative de suicide, et au moment où il est interné et soigné. Et donc, c'est genre les deux derniers mois de sa vie, en fait.
C'est ça, voilà, effectivement.
Ouais. C'est les deux derniers mois de sa vie, et qui sont le moment le plus important de sa vie créatrice, c'est-à-dire il produit à la chaîne, c'est une vraie furie créative, et en fait le but de ce film-là, c'est de montrer le moment où ça bascule, quoi. Enfin pas le moment où ça bascule parce qu'il a déjà basculé, mais la dégradation mentale, et surtout ça raconte une histoire d'amour qui, je crois, est fictive, enfin je sais pas si c'est fictif ou pas, mais ça se focalise sur une histoire d'amour. C'est un film un petit peu long, je trouve. Mais...
Alors, c'est un film un petit peu long parce qu'en fait, effectivement, tu l'as dit, c'est l'histoire d'un personnage qui est en train de mourir et qui en a conscience, en fait. Il n'est peut-être pas conscient pleinement, mais en tout cas, il a une conscience que il arrive dans les dernières limites de sa vie et qui, justement, voilà, va bouffer la toile parce que voilà, il a besoin d'injecter ses dernières impressions, ses derniers souffles dedans. Et c'est vrai que cette atmosphère, en fait, Piala décide de l'épouser dans le sens où, justement, il n'y a pas de rebondissement dramatique. Finalement, il se passe pas énormément de choses en dehors du fait de Van Gogh qui peint et de cette histoire d'amour et des paysages. Et du coup, effectivement, c'est un film qui est très long et du coup, ça donne cette espèce d'atmosphère qui piétine un peu. Voilà, au bout d'un moment, tu demandes où va aller le film, quoi.
Il y a une volonté qui est faite, et ça j'aime bien quand les biopics, enfin parce que ça reste quand même un biopic, même si ça s'attarde sur un moment de sa vie, c'est pas un biopic canoniquement parce qu'il ne fait pas toutes les étapes de sa vie, de la naissance à la mort, en passant par les coups de déprime. Là c'est vraiment les derniers mois de sa life. J'aime bien quand les films se cassent un peu la tête pour donner une photo assez différente, une photo presque de peinture. Comme une jeune fille à la perle, je sais pas si on a classé par exemple une jeune fille à la perle, où t'as vraiment, il se casse la tête pour que ça ressemble à un tableau. Et là, je trouve qu'il y a un truc assez naturaliste, en fait, dans la photo. J'adore la photo de ce film, en fait, et je sais pas qui l'a faite, mais c'est vraiment, ils se sont cassés la tête pour voir comment on pourrait rendre de manière cohérente Van Gogh. Et donc, il n'y a même pas Gauguin, j'ai failli dire Gauguin, mais Gauguin... Gauguin est plus sur l'échiquier. C'est un film pour lequel j'ai une petite tendresse, mais je trouve qu'il est presque expérimental par moment, et du coup ça me genre c'est un film imparfait, quoi.
C'est un film imparfait, mais je trouve attachant parce que justement voilà, il utilise un prisme qui n'est pas le prisme du biopic classique, qui n'est pas le prisme de la reconstitution historique, voilà, qui est effectivement un prisme qui essaie de s'attacher. Tu sens que le point de départ de Piala, c'est pas tant l'homme, parce que justement, t'as parlé de l'épisode de l'oreille, qui est peut-être l'épisode le plus connu de toute la vie personnelle, on va dire, de Van Gogh. C'est pas l'homme, mais c'est vraiment les peintures. Il s'est dit, ces peintures-là, quel est l'artiste qui leur a donné vie, dans quel contexte? Et tu sens vraiment qu'il y a un vrai attachement à ces peintures, au rapport entre l'interprétation de l'artiste et de son environnement, parce que, tu l'as dit, la photo est assez chouette, et c'est un film qui donne une grande importance à la restitution de Van Gogh au milieu des paysages qu'il va peindre. Donc c'est vraiment un prisme qui est vraiment très particulier et qui donne vraiment, je trouve, son sens, et qui aussi fait que tu peux avoir... 10, 20, 30 films sur le même artiste sans jamais avoir la même chose, et sans, voilà, c'est... Moi j'aime bien ce parti pris.
Van Gogh fait un caméo dans un film de Kurosawa, rappelons-le.
Oui,
ce qui est c'est pas mal dans le genre.
C'est pas mal. Mais du coup voilà, du coup effectivement, c'est un film imparfait, c'est un film qui est sans doute trop long. Enfin voilà, après Piala, c'est pas forcément un metteur en scène qui est connu pour avoir un sens de la retenue très très développé, hein, quand même.
Je vous emmerde.
Voilà, c'est quand même un mec qui aime les expériences excessives en tant que cinéaste. Donc là, c'est excessif d'une certaine façon, c'est plus le soleil de Satan, hein, mais c'est excessif d'une certaine façon. Et du coup, je trouve que ça donne vraiment un côté attachant en tant qu'objet filmique. Alors, c'est pas un film que je regarderai tout le temps, mais voilà, je trouve que là, il y a une vraie démarche qui est cohérente, qui fonctionne. Alors, effectivement, il y a. Voilà, c'est pas non plus. Ça aurait pu être plus travaillé, plus fin, enfin, je sais pas. Mais. Je trouve qu'au final, il y a un vrai côté attachant qui ressort de ce film-là. Et finalement, je trouve ça plus intéressant de plonger dans comment l'artiste a peint ses toiles, comment est-ce qu'il a vécu ça, plutôt que de savoir qu'il est né, je sais pas quoi, dans le Lot à temps et temps.
Il a eu un coup de mou à 20 ans et voilà. Tout ça, où il a été amoureux de Bernadette.
Voilà, exactement, voilà, tout ça. Enfin, c'est un peu ce que je reproche chaque fois au biopic, c'est qu'en fait, c'est des films qui s'attachent vraiment au factuel. Et en fait, c'est pas les parties les plus intéressantes. Là, on est vraiment dans cette espèce de création.
Oui, et même d'où l'histoire d'amour. Hein.
D'où l'histoire d'amour, qui donc, tu disais, est fictive. Bah, en fait, finalement, est-ce que ce serait pas juste une extrapolation, finalement, de l'état dans lequel se trouvait Van Gogh, qui est en train de mourir à ce moment-là? Et voilà, et je trouve que pour ce parti pris, ça fonctionne, et ça donne un film qui est assez intéressant quand même.
C'est un film intéressant, mais c'est un film que je reverrai pas, genre non. Pas genre il faut s'accrocher un petit peu quoi.
Non, bien sûr,
il est
bien
un
sûr,
petit peu long, il a des lenteurs, il y a beaucoup de scènes où Van Gogh regarde ses pompes en buvant des coups de gnôle.
Non, il y a une structure très 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 répétitive et surtout très très éclatée. Enfin voilà, comme dit. C'est pas vraiment un film découpé en actes très clairs. Enfin voilà, t'as vraiment un truc, c'est très lancinant. Faut rentrer dans. Mais voilà, pour quelqu'un qui s'intéresse à des approches un peu lancinantes, un peu contemplatives, ça peut être intéressant. Moi non plus, je le reverrai pas, honnêtement. Mais voilà, je regarde pas de l'avoir vu.
Il y a un dernier truc qu'il faut souligner, c'est quand même Jacques Dutronc. Tu l'as dit, Jacques Dutronc, il l'incarne vraiment. Et il fait un truc que. Tous les comédiens ne font pas forcément dans les biopics sur les peintres. J'adore les biopics de peintres, en fait. C'est vraiment un sous-genre que j'affectionne et j'adore, même s'ils sont pas...
Ah, comme La Chute.
Con.
Pardon. Oh.
Mais c'est un genre que j'affectionne parce qu'en fait, j'aime bien quand l'acteur prend des risques à essayer de reproduire. Et c'est ce que fait Dutronc. C'est-à-dire que Dutronc, tu le vois en train d'essayer de peindre,
oui, vrai,
et tout
ouais.
Ça. Et je suis assez fasciné quand le comédien se dit « Ok, je vais tenter de faire ça. » Par exemple, Ed Harris le fait dans Pollock.
Oui. Ouais, ouais.
Et c'est un film que j'aime beaucoup, d'ailleurs, Pollock, en l'occurrence. Et tu vois vraiment que c'est pas évident, tu vois, de reproduire un style comme ça par pur mimétisme. Souvent, pour la musique, par exemple, les mains sont doublées. Enfin, tu vois, les gars ne se sont pas vraiment donné le temps d'apprendre le violoncelle ou le violon. Et là, tu sais, ça fait un zoom. Et parfois, pour la peinture, on zoome sur la main. Et là, tu le vois vraiment physiquement impliqué quand même.
Ouais, ouais, bah, ouais, tout à fait, ouais.
Et ça me fascine assez. C'est pour ça que un détail de plus que j'aime dans ce film. Maintenant, on va le classer. Et ça va au-dessus de... Risque maximum, je peux te le dire.
Ça va au-dessus de risque maximum, hein. Oui, quand même. Où est-ce qu'on peut mettre Van Gogh, du coup.
Écoute, je vois quelques films que j'aime bien et qu'ils pourraient dignement aller là.
Dis-moi.
Tu vois Les Ailes de l'Enfer? Putain, personne n'a jamais dit ça.
Alors, moi, je le mettrais sous l'échelle de Jacob, quand même.
Ok, voilà. Non, mais voilà. Mais, voilà. Mais au-dessus d'Aladin, ouais.
Mais au-dessus d'Aladin, voilà.
Ok.
Oui, personne n'a jamais dit Van Gogh, je vais le mettre entre Babe et Les Ailes de l'Enfer.
Et tu sais qui a joué Van Gogh?
Willem Dafoe.
Il y a Willem Dafoe. Et surtout, moi, je pensais à Tim Roth.
Ah oui?
Il jouait dans le Robert Altman, tu sais, celui qui est consacré à la... qui s'appelait Vincent et Théo, qui est consacré donc à la relation entre Vincent Van Gogh et son frère Théo. Donc,
je ne l'ai pas vu, celui-là.
Ouais, celui-là, je l'ai vu aussi. Mais là encore, il se focalise aussi sur un aspect très, très précis. Tu t'imagines, bientôt, il y aura des biopics de Johnny Hallyday?
Bah, il y aura sans doute des biopics de Johnny Hallyday, évidemment.
Qui pour jouer Johnny Hallyday?
Personne, parce qu'ils vont utiliser un
Jérémy Reynier.
Deepfake. Non, ils vont utiliser... Ouais, Jérémy Reynier et prendre un deepfake.
Non, Reynier, pas Jérémy Reynier.
Non, si, Jérémy Reynier, il incarne n'importe quoi, Jérémy Reynier.
Tant qu'il te fait un prix sur l'immobilier, tout va bien. Rappelons-le, Jeremy Renner est l'agent immobilier des stars aussi.
Oui, c'est ça.
C'est pour ça qu'ils l'ont gardé dans Avengers aussi longtemps. Ah, toutes ces vannes qu'on va faire bientôt quand on va changer de décennie.
Voilà, voilà, exactement. Faudra s'en souvenir.
On remercie Mathieu pour sa liste.
Mais oui, merci Mathieu pour ta liste.
On va passer à une liste de flegmatiques.
Flegmatiques, donc.
Et c'est une liste qui s'appelle « Comment Claude François a inspiré le cinéma dans les années 90 ».
Oh là, oh là, oh là, j'ai eu crainte. Merci flegmatique pour ta liste. Je n'étais pas prêt pour une thématique, Claude François, là, tu vois.
Et attention, c'est du gros film.
Ouais, vas-y.
Et le premier film de cette liste, c'est « On connaît la chanson » d'Alain René.
Ah bah oui, oui.
Putain,
oui.
On est ouais, franchement, on commence sur les chapeaux de roue, ça se trouve, ça va se finir en Cobaye 1, tu vois. Ça.
Donc, on connaît la chanson d'Alain René.
Encore Azéma. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais Dutronc, il a eu un César pour son interprétation, ce qui est aussi le cas d'Eddie Mitchell. Eddie Mitchell a eu un César pour second rôle, pour son interprétation dans le Bonheur et dans le Pré. C'est pourquoi j'y pense, c'est parce que dans On connaît la chanson, ils ont raflé aussi beaucoup de Césars. Voilà. Donc, vas-y, lance-toi.
Non, mais voilà, bah, du coup, on connaît la chanson. Donc, c'est un... Le principe de On connaît la chanson, c'est un film qui va mettre en scène différents personnages et qui va inclure des réinterprétations de chansons populaires, non, dont la chanson populaire de Claude François, ça tombe bien, qui sont interprétées et chantées par les personnages. Voilà, l'idée, c'est de construire le film autour de ce répertoire qui va donc de donc Claude François, Édith Piaf, il y a du Sardou, évidemment, dedans, il y a du Léo Ferré, tu vois, comme on fait vraiment le grand écart idéologique. Il y a du Souchon, enfin voilà, et tout le film va se construire autour de ça. Donc ça, c'est vraiment le point d'orgue. Et puis après, au niveau du scénario, je crois que c'est tout simplement un couple qui s'emmerde, en fait, Azéma et Arditi.
Très bon couple pour s'emmerder.
Bah, je veux dire, qui tu peux imaginer comme meilleur couple qui s'emmerde que Azéma et Arditi? Enfin, voilà, c'est le choix évident.
Ils ont été faits pour ça, pour s'emmerder ensemble, j'entends.
Voilà, et du coup, voilà, qui s'emmerdent et qui vont un peu essayer de trouver un intérêt à leur vie en fréquentant d'autres personnes, en s'intéressant à d'autres sujets, notamment des sujets historiques. Et il y a toute une histoire, en fait, autour, parce que je crois qu'elle est agent immobilier, je sais plus, ou lui, enfin, je sais plus, il y a une histoire, en fait, avec des visites d'appartements... et qui servent en fait un peu de à chaque fois de prétexte pour aborder d'autres chansons. Enfin voilà, c'est un peu le fil rouge du film, quoi.
Et c'est un peu le fil rouge du film, et en plus de la chanson, et surtout il y a plein de second rôle. Il y a Jaoui et Bakri,
il y a Dussolier,
il y a Lambert Wilson,
oui, enfin,
il y a une chanteuse, à savoir il y a Jane Birkin.
Oui, il y a Jane Birkin, tout à fait.
Et puis plein d'autres personnes qui me reviennent pas, mais c'est un film choral.
C'est un film choral, ouais.
Parce qu'il présente plein de personnages, et un film choral, eux, avec, puisque ils font que chanter. Alors et ils chantent en playback, ceci dit. Hein. C'est vraiment, c'est la chanson originale qui passe.
Oui, c'est effectivement, ils font une interprétation corporelle de la chanson, voilà.
Donc voilà, comme tu l'as dit, il y en a pour tous les goûts. Il y a du Gainsbourg, il y a du Eddie Mitchell.
Oui, c'est vrai, il y a du Eddie Mitchell, ouais, tout à fait. Il y a du Dutronc aussi, d'ailleurs,
Et alors, je suis prêt, je sais pas laquelle il y a, mais je suis prêt à mettre un billet sur le fait qu'il y a du Clo-Clo, évidemment, mais aussi du Johnny Hallyday.
Oui, il y a du Johnny Hallyday aussi, ouais, tout à fait. Ouais.
Clo-Clo est un peu le, c'est fou parce que moi, je suis passé complètement à la côté de la culture Clo-Clo.
Bah alors, culture Clo-Clo, je sais pas trop. On connaît tous les mariages, les trucs comme ça, mais je sais pas trop ce que c'est exactement la culture Clo-Clo.
Je t'ai vu
quoi.
Danser sur le lac du Connemara.
c'est vrai.
Faisais genre, ouais, non. Mais en même temps, c'est Goldman, blabla, et tout ça. Et ensuite, tu danses sur le lac du Connemara.
Mais alors, déjà, parce que c'était un mariage, et surtout, il y avait un piège, c'est-à-dire qu'ils avaient mis une setlist, j'étais sur la piste de danse, et une fois que le truc était lancé, tu vas pas partir au milieu du lac de Connemara, alors que pour le coup, tout le monde danse dessus, donc du coup,
c'est la première fois que j'entendais en entier, je connaissais pas cette chanson en fait.
Bah, tu sais que moi, à mon
mariage, c'est parce que je me casse avant les mariages, oui.
Voilà, donc.
C'est bizarre. Dis-moi trois chansons qui étaient à ton mariage.
Je ne sais
c'était
plus.
C'était pas toi qui avais peut-être choisi. C'est ça le truc, c'est que les mariés eux-mêmes ne se souviennent pas en fait de ce qui s'est passé à leur mariage. On leur dit après, mais tu sais pas, il y avait Jean-Louis, il avait pris trop de cake. Enfin, tu vois.
Moi, ce que je me souviens de mon mariage, c'est que je n'ai aucune idée de comment étaient les petits fours et l'entrée parce qu'on n'a pas eu le temps on nous en a pas laissé. Tout le monde vient te voir et tu ne manges pas en fait à ton propre mariage, tu ne manges pas.
Est-ce que t'es pas un peu deg?
Non, non,